Chapitre 48. Zed faillit lâcher la selle quand il la retira du dos d'araignée. Décidément, il devenait trop vieux pour ce genre d'idiotie, pensa-t-il avec une amertume mêlée de colère. Et il posa son fardeau sur une souche puis débarrassa la jument de ses harnais. Enfin, il recouvrit le tout avec la couverture de selle. La bruine qui tombait depuis un moment ne tarderait pas à se transformer en averse s'il en aurait mis sa tête à couper. La souche se dressait à côté du tronc d'un très vieil épicéa, donc relativement à l'abri des intempéries. Pour mieux protéger son équipement, le vieux sorcier posa dessus quelques branches mortes de pin, puis il se demanda pourquoi il prenait soin d'objets qu'il ne récupérerait probablement jamais. Ravi d'être en liberté, araignée alla brouter, mais sans jamais quitter son maître du regard. Le voyage de 4 jours avait été pénible. D'abord la traversée du fleuve Drun, puis une longue ascension le long des pistes de montagne. À vrai dire, le cavalier avait plus souffert que sa monture, qui avait la chance d'être en pleine jeunesse. Voyant qu'Araignée s'occupait agréablement, Zed passa à la suite des opérations. Un rideau serré d'épicéa l'empêchait de voir très loin devant lui. Longeant la berge du lac, il contourna les arbres et s'engagea sur une étrange avancée rocheuse qui semblait être là pour servir de podium. Les poings sur les hanches, le vieil homme sonda l'autre côté du lac. L'endroit était vraiment charmant. Dans son dos, la forêt s'arrêtait à la lisière de l'eau, comme si elle avait redouté d'en approcher davantage. Ainsi, l'accès au lac était dégagé et facile. Si on oubliait les épicéas, la péninsule miniature était étonnamment dépourvue de végétation, à quelques buissons près. Mais des fleurs bleues et roses jaillissaient d'un beau tapis d'herbe rase. Partout ailleurs, des falaises entouraient le lac de montagne, dont Zed ignorait le nom, à supposer qu'il en eût un. Pour l'atteindre sans se livrer à des acrobaties qui n'étaient plus de son âge, le seul chemin, indiqué par Franca, était celui qu'il avait suivi. En face et sur la gauche, des montagnes déchiquetées aux flancs stériles se découpaient dans le lointain. Sur la droite, une falaise obstruait la vue, mais le vieil homme savait que d'autres pics se dressaient derrière. Sur l'autre berge du lac, une cascade se déversait d'une haute muraille rocheuse. Au pied de Zed, l'onde paisible reflétait ce paysage idyllique. Les eaux glacées qui alimentaient le lac venaient des hautes terres, très exactement de l'autre réservoir naturel où seuls les oiseaux nettoyeurs s'aventuraient régulièrement. La rivière Damar, qui se tenait plus loin dans le fleuve Drun, prenait en partie sa source ici. Après avoir traversé une région désolée et empoisonnée, ses eaux serpentaient dans la vallée de Naref, beaucoup plus bas, où elles dispensaient la vie. La gueule de la fournaise béait juste sous la cascade. C'était là, derrière un rideau liquide, que les carillons, 3000 ans plus tôt, avaient été ensevelis. À présent, ils étaient libres, et ils attendaient l'âme qui leur revenait de droit. À cette idée, Zed frissonna comme si des milliers d'araignées venimeuses rampaient sur ses bras et ses jambes. À tout hasard, il essaya d'invoquer son pouvoir. Cette fois, tenta-t-il de se convaincre, ça marcherait, et il pourrait rebrousser chemin sans remords. Bien entendu, rien ne se passa. Témoin muet de son échec, les montagnes semblèrent un instant l'accabler de leur mépris. Zed se sentit seul et plus vieux que jamais. S'il avait souvent imaginé sa fin, cette variante-là ne lui avait à aucun moment traversé l'esprit. Un sacrifice librement consenti, loin de tous ceux qu'il aimait et dont personne ne saurait jamais rien. Pour aller jusqu'au bout de son chemin, il avait dû mentir à Richard. S'il avait su pour les carillons, le sorcier n'aurait jamais accepté la solution qui s'imposait. S'ébrouant pour chasser sa mélancolie, le vieil homme sonda la surface trompeusement paisible du lac. Pour réussir, il devait rester concentré, sinon sa mort ne servirait à rien. Et s'il devait quitter ce monde, au moins, il entendait que cela serve à quelque chose. Le travail bien fait était toujours une source de satisfaction, même quand on doutait d'avoir le temps de savourer le sentiment du devoir accompli. À présent qu'il les observait d'un œil professionnel, les eaux lui révélaient une partie de leur sinistre secret. De terribles prédateurs nageaient sous leur surface, prêts à fondre sur la première victime venue. Les carillons de la mort attendaient. Zed étudia de nouveau la cascade et aperçut l'entrée obscure de la grotte. Il allait devoir traverser le lac, si mortel fut-il, et atteindre la gueule noire qui le dévorerait.
Centre aussi,
appela-t-il en écartant les bras.
Je suis venu t'offrir l'âme que tu cherches, la mienne, et je te la livre de mon plein gré.
Des flammes jaillirent de la fournaise, se mêlant à la colonne d'eau, contre toute logique. Elles ne s'éteignirent pas, et leur lueur colora d'orange la surface du lac. Un moment, de la vapeur monta de la cascade, puis une fumée plus noire que la nuit vint l'avaler pour former une colonne verticale marquant l'emplacement où les mâchoires de la mort attendaient de se refermer sur leur proie. L'écho d'un carillon se répercuta dans les montagnes environnantes. Centrossi venait de répondre, et il acceptait l'offrande.
« Richani !»
lança Zed à l'onde qui s'étendait à ses pieds. Il leva la tête et s'adressa à l'air qui l'entourait.
« Vinci, laissez-moi passer, car c'est à vous trois que je viens faire don de mon âme. »
Les eaux tourbillonnèrent comme si elles étaient vivantes et affamées, et ce n'était pas qu'une illusion. L'air s'épaissit autour du vieil homme, le poussant dans le dos pour qu'il avance. Un bras d'eau jaillit du lac et désigna l'entrée de la fournaise. Un concert de carillons faisait à présent bourdonner les oreilles du vieux sorcier et l'air empestait le brûlé. Comme il pleuvait depuis quelques minutes, Zed songea que se mouiller un peu plus ne lui ferait pas de mal. Sans hésiter, il entra dans le lac. Au lieu de devoir nager comme il s'y attendait, il put continuer à marcher car la surface était assez solide pour le soutenir. Un peu comme de la glace, naissaient d'étranges ondulations. Chacun de ses pas ridait l'eau, comme s'il pataugeait dans des flaques de boue peu profondes, mais il ne s'enfonçait pas, et c'était déjà ça. Richani le soutenait, le conduisant vers sa fin et vers la reine des carillons. Vassi, dont l'air était l'élément, l'escortait aussi, drapant sur ses épaules un manteau d'air qui était en réalité un linceul. Partout, Zed sentait l'imminence d'un contact avec le royaume des morts. Conscient que chacun de ses pas pouvait être le dernier, il eut le sentiment d'avancer dans un lac de sang. Il se souvint de Juni, l'homme d'Adobe noyé dans quelques pouces d'eau. Avant de mourir, le chasseur avait-il senti s'installer en lui la paix qu'il cherchait? Ou plus précisément, celle qu'on lui avait fait miroiter avant de le tuer? Selon ce qu'il savait des carillons, le sorcier en doutait. Après avoir séduit leur proie, et juste avant de l'exécuter, ces créatures ne devaient pas résister au plaisir suprême de la terroriser. Alors que Zed approchait de la cascade, des mains invisibles écartèrent le rideau d'eau pour lui ouvrir un passage jusqu'à l'entrée de la grotte. Centrossi, le carillon du feu, préférait sans doute qu'il soit aussi sec que possible. Avant d'entrer dans la fournaise, le vieux sorcier entendit araignée hennir comme si elle le suppliait de s'arrêter. Zed se retourna. La jument était au bord du lac, les oreilles aplaties et les yeux écarquillés. Sa queue battait nerveusement, lui fouettant les flancs.
« Tout va bien, araignée !»
lança le vieil homme à la pauvre bête.
« Je te rends ta liberté. Si je ne reviens pas, profite de la vie, mon ami. Profite de la vie !»
La jument hurla de colère. Quand Zed la salua une dernière fois de la main, elle passa un gémissement désespéré. Le vieux sorcier se détourna et avança entre les deux colonnes d'eau. Dès qu'il fut passé, le rideau liquide se referma dans son dos. Depuis le début, son plan était arrêté. Il allait livrer au carillon l'âme qu'il réclamait. Si c'était faisable sans y perdre la vie, il ne s'en priverait pas, mais, privé du soutien de sa magie, il ne se donnait pas beaucoup de chances d'accomplir sa mission et d'en sortir entier. Le premier sorcier était bien placé pour avoir quelques lumières sur l'affaire en cours. S'il voulait rester dans le monde des vivants, les carillons devaient s'approprier une âme. Ce marché était inclus dans le sortilège qui leur avait permis de traverser le voile. Et plus encore, ils devaient s'emparer de l'âme qui leur était promise lors de leur invocation. Des créatures issues du royaume des morts devaient avoir une compréhension limitée du concept d'âme, et, étant elles-mêmes dépourvues, elles ne pouvaient sûrement pas saisir ce qu'on éprouvait quand on en possédait une. Et ce postulat était juste, il y avait une chance qu'elles aient un certain mal à identifier celle qu'on leur avait promise. Bien entendu, il n'aurait pas été possible de leur faire prendre des vessies pour des lanternes, parce qu'elles maîtrisaient sûrement certains principes fondamentaux. Mais si on compliquait les choses, les carillons, propulsés dans un univers inconnu, n'étaient pas à l'abri d'une habile mystification. Z fondait tous ses espoirs sur leur ignorance. Le vieux sorcier était lié à Richard depuis toujours, y compris avant sa naissance. Au lien du sang s'ajoutait ceux du don, sans parler de se tisser par deux individus qui passent leur vie l'un à côté de l'autre. Leurs âmes, en somme, étaient parentes. Et comme leur corps, par exemple la forme de leur bouche rigoureusement identique, elles se ressemblaient. Pourtant, Zed et Richard restaient deux individus uniques et distincts, et c'était le grain de sable qui risquait de gripper le mécanisme. Le vieil homme espérait que les carillons, croyant reconnaître l'âme qui leur était promise, se jetteraient dessus sans hésiter. S'ils dévoraient la mauvaise proie, ils risquaient de s'étrangler avec, en quelque sorte. C'était la seule chance. Depuis le début, le vieil homme cherchait un autre moyen de régler le problème. En vain. Chaque jour, la menace qui pesait sur le monde des vivants devenait plus grave. Des gens mouraient, et la magie faiblissait d'heure en heure. Aussi fort qu'il aima la vie, Zed avait dû se résigner à se sacrifier pour arrêter les carillons avant qu'il soit trop tard. Quand elles absorberaient la proie censée leur avoir été promise, les créatures seraient vulnérables un court instant. Suffisant, espérait le vieil homme, pour que son âme détruise le sortilège qui leur permettait d'exister dans le monde des vivants. Issu d'un cerveau lambda, ce raisonnement aurait été du pur délire. Mais quand un sorcier l'avait développé, il devenait une approche pour le moins raisonnable, si douteuse qu'elle fût. Au minimum, le plan de Zed perturberait le sortilège, un peu comme une flèche qui, au lieu de tuer un cerf, le blesse gravement. Il restait une seule inconnue dans cette équation. L'effet qu'aurait ce tir désespéré sur le projectile. Sur ce point, Zed ne se faisait pas d'illusions. Si elle ne le privait pas de son âme et par conséquent de la vie, son attaque contre les carillons les rendrait foudrage, et il ne manquerait pas de se venger. Le vieil homme sourit. Quoi qu'il arrive, l'équilibre jouerait son rôle, comme toujours, et il aurait gagné le droit de revoir sa chère Erilyn dans le monde des esprits où il savait qu'elle l'attendait. Dans la grotte, la chaleur était insupportable. Comme du feu liquide, les parois ondulaient et crépitaient. Il était dans le ventre de la bête. Au centre de la grotte, Centrossi, l'âme du feu, parfois comparée à une monstrueuse reine des abeilles tapie au fond de son nid, braqua son regard mortel sur le vieux sorcier. Des langues de flamme vinrent effleurer son corps, et il vit s'afficher sur le visage igné de la créature un sourire plus brûlant qu'un incendie de savane. Une dernière fois, Zed tenta d'invoquer son pouvoir. Puis Centrossi bondit sur lui plus vite qu'un cyclone. La douleur vrilla tous les nerfs du vieil homme, et une souffrance 100 fois pire déchira son âme. Le monde s'embrasa. Zed hurla plus fort qu'il l'aurait cru possible. Richard cria de douleur. Le glas qui retentissait dans sa tête menaçait de la faire exploser, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Perdant toute conscience de son environnement, le sorcier glissa de sa selle et s'écrasa sur le sol. Un instant, la violence de l'impact le détourna miséricordieusement du vacarme du toxin, qui, en sonnant sous son crâne, le privait du contrôle de son corps et le forçait à crier comme un démon. Richard se recroquevilla dans la poussière. Se tenant la tête à deux mains, il cria à s'en briser les cordes vocales. L'univers entier n'était plus que douleur. Autour de lui, des cavaliers sautaient de leur monture en beuglant des ordres. Le sourcier apercevait à peine leur silhouette brouillée, et il ne comprenait pas un mot. À vrai dire, il ne reconnaissait personne. Plus rien n'existait que la souffrance. Occupé à la combattre, il parvenait d'extrême justesse à ne pas perdre conscience. Et s'il n'avait pas jadis subi avec succès l'épreuve de la douleur, une étape incontournable de la formation d'un sorcier, il n'aurait sûrement pas survécu. Oui, sans cette leçon durement payée, la vie l'aurait déjà abandonné. Il était seul, enfermé dans son enfer personnel, et il ignorait combien de temps il tiendrait. En un éclair, tout avait sombré dans la folie. Terrorisée, Beata courait aussi vite qu'elle le pouvait. Turner ne criait plus. Ses hurlements d'agonie, plus horribles que tout ce que la jeune Hake n'avait jamais entendu, s'est tu au bout de quelques secondes.
« Arrêtez !»
cria Beata.
« Vous êtes devenu fou ! Arrêtez !»
Le son aigu de la Dominie Dörtsch faisait encore vibrer l'air. De la poussière montait du sol en petites colonnes, évoquant des volutes de fumée. La terre avait tremblé, déracinant l'arbrisseau solitaire planté par l'équipe précédente. L'univers entier semblait avoir été ébranlé par le glas de la Dominie Dörtsch. Des larmes roulant sur ses joues, Beata fonçait vers l'arme terrifiante pour ordonner à ses soldats d'arrêter de la faire sonner. Turner était en patrouille dans la plaine pour s'assurer que la zone défendue par la Dominie Dörtsch était tranquille. Il était mort très vite, littéralement pulvérisé, mais son cri continuait à retentir dans la tête de Beata. Aussi longtemps qu'elle vivrait, comprit-elle, il lui serait impossible d'oublier ce son inhumain.
« Arrêtez !»
lança-t-elle encore en s'engageant sur les quelques marches qui menaient au poste de surveillance.
« Arrêtez !»
Arrivée sur la plateforme, elle leva les poings, prête à rouer de coups l'imbécile qui avait activé la Dominie Dörtsch. Les yeux écarquillés, Emmeline était pétrifiée de terreur. Le regard fou, Brice aussi ressemblait à une statue. Le marteau spécial qui servait à faire sonner l'arme était toujours sur son support. Et aucun des deux soldats n'en était assez près pour l'avoir déjà remis en place. Donc, il ne l'avait pas utilisé. Et pourtant...
« Qu'avez-vous fichu ? »
cria Beata.
« Comment l'avez-vous fait sonner, espèce de crétin ?»
Désespérée, elle regarda du coin de l'œil la masse d'os et de chair ensanglantée dans la plaine, tout ce qui restait d'un pauvre garçon nommé Turner.
« Vous l'avez tué ? Pourquoi ? Par les esprits du bien ?»« Je n'ai pas bougé de mon poste ?»
dit Emmeline.
« Moi non plus !»
ajouta Brice, qui tremblait de tous ses membres.
« Sergent, nous n'y sommes pour rien, je vous le jure. Nous n'avons pas approché de la Dominie Dörtsch. »
Alors qu'elle foudroyait du regard ses subordonnés, Beata s'avisa qu'elle captait des cris dans le lointain. Tournant la tête vers la Dominie Dörtsch de droite, elle vit que des soldats couraient en tous sens, comme s'ils étaient devenus fous. À gauche, elle découvrit le même spectacle. Plissant les yeux, elle crut reconnaître les restes sanguinolents de deux soldats devant l'arme magique. Le caporal Marie Fauvel et le soldat Estelle Ruffin venaient d'atteindre la dépouille de Turner. Se tirant sur les cheveux à les en arracher, Estelle hurlait comme une possédée. Marie s'était détournée et vomissait tripes et boyaux. Beata n'avait commis aucune erreur. Elle avait suivi les consignes, telles qu'elles étaient appliquées depuis des millénaires. Chaque jour, au même moment, toutes les escouades affectées au Dominie Dörtsch envoyaient une patrouille vérifier qu'il n'y avait rien à signaler dans la plaine, un quadrillage de terrain qui évitait les mauvaises surprises. Brice et Emmeline n'avaient rien à se reprocher non plus, car toutes les Dominie Dörtsch s'étaient mises à sonner au même moment. Callan prit Richard par les pans de sa chemise, mais elle ne parvint pas à le forcer à la regarder. Toujours roulé en boule, il souffrait atrocement. Sans savoir exactement ce qui se passait, l'inquisitrice devina que son bien-aimé était en danger de mort. Elle l'avait entendu crier, puis tomber de son cheval. Au début, elle avait pensé à une flèche, un archer posté dans les rochers ou derrière un arbre, mais elle n'avait pas vu de sang, ni découvert de blessures sur le corps de Richard. Autour des deux jeunes gens, 1000 soldats d'Aran se déployaient pour assurer leur protection. Dès qu'ils avaient entendu leur seigneur crier, ces guerriers d'élite étaient passés à l'action sans attendre les ordres de la mère inquisitrice. Leurs armes dégainées, ils étaient prêts à repousser une attaque. Un cercle protecteur s'était formé en quelques secondes autour du seigneur Hall et de son épouse. Un deuxième finissait de se refermer autour du premier. Au-delà de ce périmètre de sécurité, ces hommes-là n'ayant pas sauté de leurs chevaux pour ériger un mur quasiment infranchissable, le gros du détachement fouillait déjà les environs pour débusquer et abattre tout agresseur potentiel. Ayant eu pour père un grand soldat, Callan en savait long en matière de stratégie et de tactique. À les voir réagir, elle constata que les Daran étaient aussi bons qu'ils en avaient l'air. Parfois, les armées les plus fringantes se révélaient lamentables dès qu'il fallait faire face au danger. Ces hommes-là avaient exécuté la manœuvre qu'elle aurait ordonnée s'il lui en avait laissé le temps. Ils étaient rapides, disciplinés et capables de prendre des initiatives. Tout ce qu'on pouvait attendre de mieux d'une escorte. À quelques pas de Callan, la Bakata Umana, arme au poing, avait aussi formé une ligne de défense. Quelle que fût la nature de l'attaque, Richard ne risquait plus rien. Une muraille d'hommes, de chevaux et d'armes empêcherait quiconque de l'atteindre. Encore sous le choc, l'inquisitrice pensa que Cara serait furieuse en apprenant cette histoire. Sa sœur de Lagiel avait promis de protéger le seigneur Hall et elle avait échoué. Manquer à la parole donnée à une mort de cite n'était jamais une petite affaire, alors quand il s'agissait de Richard. Du Chaillus se fraya à un passage entre ses maîtres de la lame et vint s'agenouiller de l'autre côté de Richard. Callan vit qu'elle avait apporté une outre d'eau et de quoi bander une plaie.
« Tu as trouvé la blessure ?»
demanda-t-elle à l'inquisitrice.
« Non, »
répondit Callan. Elle posa une main sur le front de Richard et frissonna. Il avait été dans un état très semblable lorsqu'il mourait de la peste, brûlant de fièvre et délirant. Aucune maladie ne vous faisait tomber ainsi de cheval sans prévenir, mais à ce détail près, les symptômes étaient identiques. Du Chaillu humidifia un morceau de tissu et le passa sur le visage du sourcier. Dans les yeux de la femme esprit, Callan lut une inquiétude qui reflétait fidèlement la sienne. Elle examina de plus près son mari à la recherche d'un carreau d'arbalète, voire d'une fléchette. Richard tremblait, plus précisément, il avait des convulsions. Callan le tourna sur le flanc pour voir si un projectile l'avait frappé dans le dos, elle ne trouva rien, comme si elle s'y attendait un peu. Quand elle l'eut remis sur le dos, Du Chaillu commença à caresser doucement les joues du sourcier. Puis elle se pencha sur lui et lui souffla à l'oreille une incantation dont l'inquisitrice ne comprit pas un mot.
« Je n'ai rien trouvé, Du Chaillu. »«
C'est normal, » murmura la femme esprit.
« Pourquoi ?»
La Bacata Humana continua à parler à Richard d'une voix vibrante d'émotion. Même sans comprendre ce qu'elle disait, Callan en eut le cœur serré. Une telle tendresse.
Ce n'est pas une blessure infligée dans ce monde, dit Du Chaillu en se redressant un peu.
Callan regarda les soldats déployés autour de leur seigneur. D'instinct, elle posa une main protectrice sur la poitrine de Richard.
Que veux-tu dire, Du Chaillu?
La femme esprit écarta doucement la main de Callan.
C'est son esprit qui est touché. Son âme même. Laisse-moi m'en occuper.
Callan posa une paume sur la joue du sourcier.
« Comment le sais-tu? C'est absurde, tu ne peux pas... »«
Les femmes esprits reconnaissent ce genre de blessure. »«
Mais tu... »«
As-tu trouvé une plaie sur son corps ?»
L'inquisitrice ne répondit pas tout de suite. Richard était en danger et elle devait oublier sa ridicule jalousie.
« Tu sais ce qu'il faut faire pour l'aider ?»«
Oui. »«
Et c'est au-delà de tes capacités. »
Du Chaillu baissa la tête et plaqua de nouveau les mains sur la poitrine de Richard.
« Si tu ne me laisses pas agir, ton mari mourra !»
Callan s'assit sur les talons et regarda la Bacata Humana se plonger dans une transe, les yeux fermés et les bras tremblants. Elle murmura des paroles qui ne s'adressaient à personne, sinon à elle-même et à l'homme qu'elle tentait de sauver.
Soudain, son visage se tordit de douleur. Du Chaillu s'écarta de Richard, brisant leur connexion. La voyant basculer en arrière, l'inquisitrice la retint par les bras. « Tu vas bien ?» « Mon pouvoir, il est revenu !»
Callan baissa les yeux sur Richard, qui semblait aller mieux.
« Qu'est-il arrivé ? »
demanda-t-elle.
« Et qu'as-tu fait ?»«
Une entité essayait de lui voler son âme. Je l'ai chassée, et j'ai éloigné les mains de la mort du corps de Richard.
Ta magie serait revenue ? C'est impossible !
Je ne comprends pas non plus. Elle s'est éveillée quand le Kaharin a crié avant de tomber de cheval. » « Je le sais parce que j'ai de nouveau senti le lien entre nous. »«
Tu crois que les carillons sont retournés dans le royaume des morts ?»«
Non, le phénomène n'a pas duré et mon pouvoir me quitte déjà. »« Ouais, il disparaît. J'ai à peine eu le temps de sauver le Kaharin. »
Du Chaillu dit à ses guerriers de se détendre car le danger était passé. Pas totalement convaincu, Callan regarda de nouveau Richard. Il respirait mieux et semblait moins agité. Soudain, il ouvrit les yeux et battit des paupières, ébloui par la lumière. Du Chaillu s'agenouilla pour lui tamponner le front.
« Tu es sauvé, mon époux, »
dit-elle.
« Du Chaillu, » marmonna le sorcier, « combien de fois devrais-je te répéter que je ne suis pas ton mari? Tu interprètes mal les antiques paroles. »«
Tu vois ?»
lança la Bacata Humana à Callan.
« Il va déjà beaucoup mieux. » Je remercie les esprits du bien que tu nous aies accompagnés, mon ami.
Alors, dis-lui que je m'en irai s'il continue à râler comme ça. »
Callan ne put s'empêcher de sourire. Richard n'était pas prêt d'en avoir fini avec la femme esprit, et ça avait quelque chose d'amusant à la longue. Des larmes de soulagement perlèrent à ses paupières, mais elle parvint à les empêcher de couler. Une fois de plus, Richard avait par miracle échappé à la mort.
« Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « Et que t'est-il arrivé ?»
Le sourcier tenta de se redresser. Avec un bel ensemble, Callan et Duchahut l'en empêchèrent.
« Tes deux femmes t'ordonnent de te reposer un peu, »
déclara la Bakataumana. Face à une telle coalition, Richard capitula sans condition. Il tourna ses magnifiques yeux gris vers Callan, qui lui prit la main et en silence remercia une nouvelle fois les esprits du bien.
« Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, » dit Richard.
« On aurait cru qu'un glas sonnait dans ma tête. La douleur était... »
Il blêmit à se souvenir.
« Je ne sais pas comment décrire ça. C'était, eh bien, pire que tout ce que j'ai jamais éprouvé. »
Cette fois, il s'assit, écartant les mains des deux femmes.
« Je vais bien maintenant, c'est fini. » « Je n'en suis pas si sûr, »
souffla Callan.
« Moi, si. »
Le regard de Richard se voila.
« Des griffes tentaient de m'arracher mon âme. »« Mais elles n'ont pas réussi, »
dit Duchahut.
« Elles ont essayé et je les en ai empêchées. »
La femme esprit croyait dur comme fer ce qu'elle disait. Et Callan ne douta pas un instant de sa parole. La jument était immobile, à part ses sabots qui raclaient nerveusement le sol. Son instinct lui ordonnait de galoper. Elle tremblait de panique, le souffle court, mais elle résistait au désir de s'enfuir. L'homme était entré dans le trou derrière le mur d'eau. Comme tous les chevaux, la jument détestait les trous. Alors que la terre tremblait, l'homme avait crié, très fort. Depuis, beaucoup de temps avait passé. Dans le silence revenu, la jument n'avait pas bougé. Elle savait que son ami vivait encore. Un long hennissement désespéré monta de sa gorge. Il n'était pas mort, mais il ne revenait pas. La jument était seule. Et il n'y avait rien de plus terrible pour un cheval.